France Culture.
Le cours de l'histoire. Xavier Mauduit.
De Saint-Janvier à Maradona, cultes et croyances napolitaines. Ah, Naples en Italie, Naples, la sublime avec la gastronomie, les musées, les monuments. Mais aussi le saint, le sang et le volcan. À se demander si la ville serait propice à l'épanouissement des superstitions. Des superstitions bien pratiques pour se protéger du mauvais œil. Des désastres aussi, et pourquoi pas, pour remporter un match de football.
Il y avait Naples qui jouait. Je devais voir Maradona.
Son Excellence a certainement entendu parler de Saint-Janvier.
Le grand patron de Naples qui la protège du Vésuve.
Oui, Excellence. Et qui, pour bien montrer aux Napolitains qu'il ne les oublie pas, se manifeste à eux chaque année depuis 14 siècles.
Le miracle du sang.
Ouais.
Le sang coagulé de Saint-Janvier qui se liquéfie le premier dimanche du mois de mai.
Ouais.
Oui, je connais.
Ah. C'était la main de Dieu.
Ah bah alors là, nous avons tout, nous avons la main de Dieu, nous avons ici le sang qui se liquéfie. Bonjour Brice Gruet.
Bonjour.
Vous êtes maître de conférence en géographie à l'Institut National Supérieur du Professorat et l'Université Paris-Est Créteil. Vous êtes surtout l'auteur du saint, du sang et du volcan. Le saint, le sang et le volcan, se protéger des désastres à Naples. Dites-nous, vous êtes géographe, donc c'est important, moi je pose la question, est-ce que Naples est un site propice à la superstition ?
Oui, certainement, parce que quand on arrive à Naples pour la première fois, on est quand même plongé dans un environnement qui est hallucinant, surtout quand on vient d'Europe du Nord, avec une atmosphère urbaine qui est déjà très particulière, parce qu'on est dans une vieille ville avec des rues très étroites qui remontent à l'époque romaine. Et puis, il y a quand même une population qui s'est maintenue dans ces quartiers et qui a justement conservé tout un ensemble de pratiques qui peuvent sembler étranges de l'extérieur. Et de ce point de vue-là, les cultes des saints en particulier à Naples sont extrêmement développés. Il y a vraiment une piété qui reste encore très très présente, avec toutes sortes de pratiques qu'ils accompagnent, qu'on comprend plus ou moins bien quand on est de l'extérieur.
Mais pourquoi à Naples particulièrement ? Qu'est-ce qu'il y a ? Parce que je vous parlais du site, alors bien sûr, tout de suite j'imagine la baie de Naples et c'est sublime, mais il n'y a pas que ça.
Non, en fait, il y a la présence d'un danger très concret quand même s'il n'est pas forcément toujours palpable, c'est le risque volcanosismique en fait. C'est-à-dire que c'est une des villes au monde les plus exposées certainement aux éruptions volcaniques et aux séismes. Et ça crée donc une tension qui est sensible en permanence, ce qui laisserait penser que pour se protéger de quelque chose qui est inéluctable, inévitable, on peut avoir recours à des pratiques qui ne sont pas forcément très orthodoxes ou très rationnelles.
Et bien c'est ça qui nous intéresse aujourd'hui dans le cours de l'histoire avec vous, Brice Gruet, et également avec Florian Villain-Carapella. Bonjour.
Bonjour.
Vous enseignez à l'Université Sorbonne-Nouvelle et vous êtes l'auteur de Napoli sublime. On dit comment ? Napoli sublime ou Napoli sublimé ? C'est le titre de votre ouvrage.
Comme vous voulez. Voilà. Napoli sublimé, ça va très bien.
Voilà, oui, je vais dire que c'est sublime en tout cas, et ça c'est certain, sur l'idée que Naples serait une ville plus propice à la superstition que bien d'autres villes. C'est possible ça ?
Oui, enfin, effectivement, si Naples ne l'est pas, je ne vois pas quelle autre ville le serait. Il y a effectivement une saturation même des phénomènes qui dénotent un comportement superstitieux, au-delà des choses que nous venons d'évoquer, de la place des saints, des icônes dans la ville, et des personnes qui se signent devant les madones, devant les églises, devant les corbillards. C'est aussi une chose qu'on retrouve dans la vie quotidienne. Si on renverse du sel à table, on le jette par-dessus l'épaule. Si on verse du vin, on prend quelques gouttes pour en mettre derrière les oreilles. Après les repas de fête, on mange des lentilles pour leurs promesses de richesse, etc. Et ça se traduit même plus précisément par ce qu'on pourrait appeler une attention exacerbée aux signes qui se manifeste notamment dans la connaissance assez impressionnante quand on la découvre de la Smolfia.
C'est quoi ?
C'est ce système de correspondance, cette symbolique des nombres, système de correspondance entre les nombres et des objets, des types de personnes, des événements, etc. Qui est en fait une connaissance transgénérationnelle qui se réactive à chaque fois que les Napolitains jouent après les repas de fête à la tombe, à la loterie. C'est ça, tout à fait étonnant. Et en même temps, j'insisterai sur le fait que on peut aussi noter que les Napolitains jouent beaucoup avec ces croyances qui semblent plutôt même parfois participer d'une sorte de mise en scène ou de de ce que Marcel Mauss appelle un mensonge social, d'une certaine manière. Mais j'aurai peut-être l'occasion d'y revenir.
Bah oui, ça participe de leur identification ici. Brice Gruet, il y a l'idée, on a évoqué la plainte de superstition, de la transmission de ces superstitions, c'est-à-dire comment ça se diffuse. Et le fait que Naples soit un carrefour, ça permet aussi d'expliquer pourquoi cette ville, eh bien, est si riche de superstitions.
Oui, bah, si on prend simplement les éruptions volcaniques, on a un récit en fait qui s'est construit vraiment sur plusieurs siècles et qui renvoie en plus à des univers culturels très différents. Parce que comme Naples fait partie des plus anciennes villes d'Europe, c'est vraiment un carrefour culturel depuis l'Antiquité. Et donc, on a eu une stratification culturelle, une sédimentation culturelle qui est vraiment visible, en fait. C'est-à-dire qu'on a un mélange entre des survivances de l'Antiquité, tout ce qui s'est passé pendant le Haut Moyen-Âge aussi, où il y avait quand même l'influence byzantine, etc., jusqu'à l'époque baroque et la domination espagnole, qui a quand même donné une touche très dramatique avec ce baroque qui est extrêmement puissant et qui est omniprésent dans la ville, y compris dans les édicules, donc les petits hôtels qui sont construits partout dans les rues. Et ça, quand on y arrive pour la première fois, alors il y en a partout, des petits hôtels de rue, mais à Naples, c'est particulièrement frappant, parce que là, on le voit partout. Et avec des mélanges donc entre les saints plus ou moins officiels, et puis les âmes du purgatoire, qu'on trouve en dessous de ces édicules, souvent, avec des petits santons qui représentent justement ces âmes du purgatoire. Donc c'est des choses quand même qui sont très très bizarre en fait, et qui donne encore une fois toute une atmosphère. Ou encore, on trouve des statues grandeur nature de Padre Pio, donc qui était ce saint très 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 populaire dans le sud, dans certaines cours d'immeubles et ainsi de suite. Donc voilà, là, ça donne quand même quelque chose de très puissant en fait. Et on a du mal à démêler au fait l'écheveau culturel que ça représente quand même.
Oui, avec Padre Pio qui est un homme du XXe siècle, hein, c'est quelque chose d'assez récent.
À cheval entre 19
et 20. Voilà, c'est ça, il est né en 1887 et ici on a un culte qui s'est développé, et vous avez raison hein, Brice Gruet, de souligner combien par la peinture et par la sculpture, dans les églises partout, qu'est-ce qu'il y en a, des mecs qui saignent, ça découline de sang à Naples. Mais on parle de Naples comme d'un tout, faut peut-être regarder un peu de manière plus fine comment se construit cette ville.
Lettera da Napoli. On dit, le ciel est bleu à Naples. Le ciel à Naples est en réalité variable comme l'humeur des habitants. Il change d'un point à l'autre, de quartier à quartier, de ruelle à ruelle. Le ciel n'est pas pareil partout dans la ville. Il est gris au mercato et oléographique à Via Caracciolo. Il est sec e sonoro Vomero e blanc a Foria. A Mergellina, il est rouge et velouté et ressemble au ciel de certains tableaux de la Renaissance. Il est opalescent comme une fièvre liquide si on le regarde à Posillipo, là où il va se mêler à la mer. Il y a quelque chose qui va au-delà du symbole et des coïncidences. Et peut-être c'est une image nouvelle pour ceux qui gardent de Naples un différent souvenir.
Michele Prisco qui évoque ici, il est journaliste, écrivain, mais aussi poète, on l'entend, comment le ciel de Naples change selon les quartiers. D'ailleurs, dire Naples, c'est un peu singulier, la ville de Naples a un S, hein, c'est normal. On pourrait parler de Naples au pluriel ?
Oui, parce que la ville a déjà bougé dans le temps, puisque le premier site qui était la Néapolis grecque, elle s'est construite sur une éminence qu'on appelle Pizzo Falcone, et maintenant. Et puis, elle est après descendue du côté du rivage avec ce qu'on appelle Spacca Napoli, qui est donc le quartier romain. Et puis après, elle a monté aussi sur les collines. On a du côté du Vomero avec la Chartreuse de San Martino et puis le Castel San Telmo qui coiffe quand même cette espèce d'énorme amphithéâtre. Et vers l'est, on va vers le Vésuve, où là, justement, on a ce paysage vraiment iconique de carte postale, où on a en fait, quand on regarde depuis le Posillipo vers le Vésuve, cette espèce de magnifique perspective avec ce volcan très menaçant qui à la fois identifie la ville, finalement, ou même s'identifie la ville et la menace. Donc là, on a vraiment un décor de théâtre très, très, très intéressant.
Le Posillipo, c'est un des quartiers de Naples, avec ce voyage que vous nous proposez aujourd'hui dans le cours de l'histoire à travers Naples et ses superstitions. Dites-nous, Florian Villain-Carapella, dans Napoli sublimée, Napoli sublime, vous avez pris quelle démarche, quel regard vous portez sur Naples? Cette variété-là, vous la voyez?
Oui, alors c'est un objet un peu curieux, ce livre. En fait, c'était au départ un travail que je faisais avec un ami photographe qui s'appelle Jean-Luc Dubin, Et qui fait un travail formidable d'artiste en fait sur la ville. Et l'idée c'est de croiser les regards du photographe et de la sociologie et de l'anthropologie. J'ai plutôt moi cherché en fait les correspondances. J'ai cherché au fond la dimension symbolique que pouvaient recouvrir ces pratiques, et notamment en fait dans la société contemporaine. Donc je me suis intéressé au culte du purgatoire, et que j'ai raccroché à cette figure particulière qu'est Maradona, dont nous parlerons sans doute.
Ah bah oui, nous sommes à Naples.
Voilà, donc c'est une, c'est ça, voilà, un objet, un objet un peu curieux entre l'essai et le travail, disons universitaire, un peu documenté
et artistique, hein, parce qu'il y a les photos de Jean-Luc Cubin.
J'allais le dire, et artistique.
Et ici, on évoque le purgatoire. Tous les deux, vous l'avez évoqué, le purgatoire. On peut peut-être rappeler de quoi il s'agit.
Bah, en fait, c'est l'idée que dans cette vie, peu de gens ont été vraiment bons ou vraiment mauvais. Donc il y a cette espèce d'incertitude sur le sort de ces défunts, pour lesquels on s'inquiète évidemment, et bon, ça c'est Le Goff qui l'avait bien démontré, mais cette naissance progressive d'un espace intermédiaire où on est censé se purifier de ses fautes pour après rejoindre le ciel. Et comme à Naples, il y a quand même ce rapport aux défunts qui est très très charnel, je dirais, on se soucie beaucoup de ces défunts. Et là-dessus, s'est développé un culte. Alors Florian en parlera sans doute mieux que moi, mais qui en fait consiste à figurer ces défunts. Et quand je parlais tout à l'heure de ces édicules dans les rues, on y voit souvent des photos en fait des grands-parents, des proches qui sont partis. Et donc je parlais aussi de ces santons, c'est-à-dire que vous avez la partie supérieure de l'édicule, donc avec le saint, souvent la Vierge, et en dessous vous avez une niche souterraine avec des petits personnages qui ont le bas du corps plongé dans les flammes et les mains levées vers le ciel en train d'implorer le Seigneur. Donc c'est quand même quelque chose de tout à fait incroyable, et on le voit régulièrement dans la ville. Donc là-dessus, cette espèce de discussion aussi, d'échange avec ces défunts, où on espère qu'ils vont s'en sortir, c'est quelque chose qui est très présent dans la ville, a priori.
Oui, alors c'est vrai, le purgatoire occupe une place importante indéniablement à Naples, et fait vraiment partie de l'identité napolitaine. Et c'est un... En fait, c'est un culte ou une dévotion qui a connu plusieurs naissances. Alors évidemment, un peu comme partout, à la fin du XVIe siècle dans le contexte assez central à Naples de la contre-réforme, le purgatoire, s'installe d'une certaine manière et accompagne en fait l'édification de lieux de culte, dont une église qui est dédiée aux âmes du purgatoire dans le centre-ville de Naples, aujourd'hui dans la Via dei Tribunali, Santa Maria delle Anime del Purgatorio ad Arco, la Sainte Marie des âmes du purgatoire. Et là, certainement, il y a eu un culte qui a pu peut-être ressembler un peu à celui que l'on a connu ensuite au XXe siècle, mais tout de même... qui avait des spécificités qui doivent aujourd'hui nous échapper. Puis ce culte est réapparu à la fin du 19e, après autour d'un autre moment, enfin de façon concomitante à une autre épidémie, puisqu'au 17e siècle, en fait, évidemment, au milieu du 17e siècle, il y a c'est la peste qui emporte plus de la moitié de la ville, hein, deux tiers de la ville. Et voilà, donc il y a le choléra à la fin du 19e siècle et le purgatoire qui réapparaît à ce moment-là, mais là encore aussi pour des raisons institutionnelles, comme au 17e, pour répondre à l'anticléricalisme, à la montée du spiritisme, etc. De nouveau, le purgatoire, d'une certaine manière, réapparaît après la Seconde Guerre mondiale, notamment dans le cimetière des Fontanelles, avec un culte très impressionnant, un culte des crânes, mais qui serait né en réalité dans les années 30, dans les sous-sols d'une basilique du centre-ville qui s'appelle San Pietro ad Arles.
On voit beaucoup de crânes à Naples, hein, quand même, y compris dans l'église dont vous parliez, où il y a des crânes en bronze avec des tibias entrecroisés sur des pilastres qui se font voler d'ailleurs assez régulièrement, je crois. Mm-hmm. Et ça, c'est quand même quelque chose qui est très très présent. Hein. Quand on parlait du baroque, il y a aussi même des cires hein, qui représentent des corps en décomposition pour montrer un peu le risque du péché et donc ce qui est vraiment présenté aux fidèles. Donc c'est quand même assez, assez saisissant.
À Naples, les morts ne sont jamais loin.
Corpus mori.
Quando corpus morietur. C'est Nicolas Rago, c'est un compositeur hein, de la fin du XVIIe siècle, début du XVIIIe siècle. C'était un album ici consacré au trésor de Saint-Janvier. Bah, ça tombe bien, la musique sacrée à Naples au début du XVIIIe siècle. Brice Gruet, dans ce rapport à la mort, à Naples, nous l'évoquons aujourd'hui, c'est très présent. Les morts ne sont jamais loin. Ça correspond d'ailleurs à ce qui était très fréquent par le passé et bien au-delà de Naples. Le rapport à la mort, c'est comme si à Naples, il y avait un conservatoire de cette relation particulière.
Oui, c'est vrai. Ben, on le sait, hein, les premiers chrétiens enterrent leurs morts près d'eux. D'ailleurs, c'est même un changement anthropologique majeur, puisque dans l'Antiquité, on mettait les morts en dehors des villes. Et on considère que la christianisation est effective quand, justement, on voit des sépultures à l'intérieur de l'espace urbain. Et à Naples, de fait, c'est comme si on avait gardé quand même ce rapport très, très, encore une fois, charnel avec les défunts, parce que on le voit partout, en fait. Alors, il y a des cimetières, évidemment, qui se trouvent un peu sur les pourtours de la ville, mais les week-ends, on voit beaucoup de gens qui s'y rendent pour vraiment rendre visite à leur mort. Alors, encore une fois, pourquoi c'est plus présent, pourquoi ça s'est plus préservé à Naples qu'ailleurs? Je pense qu'il y a, un faisceau de causes. J'en parlais tout à l'heure par rapport au risque déjà naturel, mais il y a aussi la vie à Naples qui est difficile et qui est difficile depuis longtemps, avec une stratification sociale qui était très très hiérarchisée, si vous voulez, à l'époque moderne notamment, et donc des classes très très pauvres qui vivaient dans des conditions très difficiles et qui avait un contact, je dirais, avec le surnaturel qui allait avec, qui était vraiment impressionnant. Moi, ce qui m'avait frappé là-bas, c'était en visitant le musée d'anatomie comparée, qui est un des plus anciens d'Europe, où on voyait des squelettes de personnes qui vivaient dans les citernes, en fait, grecques et romaines, hein, qui permettaient d'alimenter la ville en eau. Et c'était des squelettes complètement déformés, donc des gens qui vivaient dans des conditions inouïes, mais qui avaient vécu vieux, enfin, qui avaient vraiment réussi à survivre dans des conditions inimaginables. Donc tout ça pour dire que cette espèce d'atmosphère de violence et de difficulté, elle accompagne quand même les Napolitains depuis longtemps.
Avec cette figure de Saint-Janvier, cette figure de Saint-Janvier qui marque profondément tout ce que nous disons là. D'ailleurs, on peut rappeler qui est ce saint, il vient d'où ?
Oui, alors c'est un évêque, en fait, qui était originaire de Bénévent, ce qui a créé quelques petites querelles entre Bénévent et Naples pour savoir à qui le saint revenait. Mais il a été très largement adopté par les Napolitains, donc il a été martyrisé en 305 avec ses compagnons. Et il a été décapité, en fait, mais après avoir résisté à plusieurs autres supplices. Et il a été décapité à la Solfatar, donc qui se trouve à l'ouest de Naples. Et c'est un lieu déjà marqué par les feux souterrains, puisque c'est un lieu où on a des vapeurs soufrées qui sont expulsées en permanence. Ce qui fait qu'il y a une association entre le saint et le feu souterrain depuis l'origine, en fait. Et c'était les dernières persécutions graves hein, sous Dioclétien. Et à partir de là, on a des attestations très, très précoces d'un culte autour, justement, de ce saint, de ce saint martyr.
Ah oui, c'est un culte ancien, en fait, le culte de Saint-Janvier.
Oui, oui, il se développe juste après sa mort. Dès le 5e siècle, on a des traces textuelles d'un culte rendu à Saint-Janvier.
Le culte, c'est une chose, mais le fait que ce saint puisse protéger la ville, c'en est une autre. À partir de quel moment on le voit vraiment devenir le protecteur incontournable de Naples ?
Alors, incontournable, non, il n'est pas forcément incontournable pendant un certain temps. Néanmoins, le fait qu'on l'associe, par exemple, au volcan, au Vésuve, ça apparaît vraiment dès le 5e, 6e siècle. Parce qu'on a encore, en plus, des éruptions très, très puissantes à cette époque-là. Et apparemment, d'après les textes dont on dispose, mais il y a eu pas mal d'interpolations, de transformations de ce corpus, on pense quand même qu'à partir des 6e siècle, le culte du saint protecteur du feu du volcan est quand même bien installé. Mais c'est 1631 qui va vraiment être la date de bascule pour le culte actuel, si vous voulez, du saint.
Parce que c'est
Parce que c'est... Alors en fait, ce qui se passe, c'est que pendant tout le Moyen-Âge, le volcan s'endort. Il s'éteint pas, mais il s'endort. Donc on oublie finalement que c'est un volcan à partir, je dirais, du 7e, 8e siècle. Et c'est seulement à partir du 16e siècle que le volcan commence à se réveiller, avec en plus une éruption qui est celle du Monte Nuovo en 1538, qui est comme une espèce d'avant-goût de ce qui va se passer en 1631. Et là, ça stupéfie les contemporains. Et 1631, décembre 1631, c'est le moment où le Vésuve entre dans un nouveau cycle éruptif, et avec une explosion, enfin une éruption explosive très violente, qui va alors là terrifier tous les habitants de la région. Et Saint-Janvier, qu'on sortait déjà en procession depuis un certain temps, ou plutôt les reliques du saint, c'est-à-dire sa tête en particulier, eh bien là on le sort à nouveau, et on considère qu'il a une apparition miraculeuse au-dessus de la foule, et il repousse en fait les cendres du volcan, alors qu'ils vont aller vers d'autres localités malheureusement, mais en tout cas Naples est sauvée, et là la population adhère de manière vraiment totale, je dirais entière, à ce culte.
Ah bah oui, on le voit bien dans votre ouvrage, hein. Brice Gruet, le saint, le sang et le volcan, il y a des images de l'iconographie, on a vraiment un saint super-héros qui vole et qui repousse comme ça le danger du volcan. Dans cette histoire-là, Florian Villain-Carapella, on n'a pas la possibilité de passer à côté de Saint-Janvier quand on va à Naples.
Non, effectivement, on le croise partout, donc dans les édicules, effectivement, dans les... sur les étals de la via San Gregorio Armeno, là où les artisans fabriquent les santons. Effectivement, oui, c'est une figure omniprésente. Qui est connu en fait quelques mutations aussi, dont on parlera peut-être aussi après avec des figures plus contemporaines. Mais il y a effectivement ce besoin de conjurer un peu la peur, ça c'est vrai, mais justement de façon assez étonnante pour reprendre une question que vous posiez tout à l'heure. Le rapport à la mort est assez surprenant pour nous, mais précisément peut-être parce qu'il il consiste justement à prendre le pied de ce que Delumeau appelle la pastorale de la peur. C'est-à-dire qu'en fait, en réalité, le rapport à la mort, et c'est le cas notamment dans le culte du purgatoire, est plutôt un rapport rassurant, rassérénant, assez doux en fait. Je crois que ça tient au fait que les Napolitains ont trouvé dans leur tradition, ont trouvé le moyen, au fond, de justement, de se garder de cette peur de la mort en la rendant obscène, comme dit l'anthropologue Geoffrey Gorer, en la rendant obscène et en faisant pas quelque chose de pornographique, d'interdit et de tabou, comme ça peut être le cas dans nos sociétés modernes.
Oui, elle est très présente, elle est là, et puis on pousse loin le curseur sur la mort avec cette idée de sang, parce que Brice Gruet, le saint, on l'a, c'est Saint-Janvier, le volcan, nous l'avons, c'est le Vésuve, il reste le sang. Alors, quelle est cette histoire de sang à Naples ?
Alors, c'est une histoire assez mystérieuse, parce qu'en réalité, donc, comme je disais, le saint, il est martyrisé en 305, ses restes se promènent quand même pas mal, parce que, comme souvent pendant l'époque médiévale, on se vole les reliques. Alors, certaines vont aller à Montevergine, d'autres vont rester à Naples. Et, en tout cas, on a donc la tête, on a les ossements, mais le sang, on n'en parle pas jusqu'en 1389. Donc, ça fait 1000 ans
C'est long. Trou.
Et là, évidemment, c'est compliqué d'arriver à comprendre ce qui s'est passé parce que à partir de cette date, ça devient vraiment quelque chose d'essentiel. Mais pourquoi ce silence? Alors, ça a donné lieu justement à des tas de spéculations plutôt modernes sur c'est un faux, c'est une fabrication, une forgerie, etc., une fausse relique, et ainsi de suite. Et puis, en même temps, comme il y a ce phénomène incroyable qui est la liquéfaction d'une matière qui est brunâtre comme du sang coagulé et qui redevient liquide à certaines occasions, ça a évidemment déchaîné les passions et ça a donné lieu d'ailleurs à toute une littérature. Donc ce sang, il est devenu l'élément central du culte du saint à partir de la fin du XVe siècle en fait.
En quoi consiste la liquéfaction du sang de Saint Janvier? On va demander l'avis de l'Église, mais ça c'est le père Moreau qui va nous répondre. Il est correspondant de Radio Vatican en 1976.
Eh bien, c'est un phénomène extrêmement curieux qui a été étudié d'ailleurs scientifiquement surtout depuis 1902. Il n'y a aucun doute au point de vue scientifique, c'est du sang humain. Comment se liquéfie-t-il? Alors là, les savants sont devant un point d'interrogation. On a pesé l'ampoule, on a pris sa température bien des fois. Vraiment, les savants, les physiciens, ont eu, et pour ça, il faut reconnaître la loyauté de l'Église, les savants ont toujours eu la possibilité, surtout depuis 1902, d'examiner de près cette ampoule qui mesure à peu près 12 cm de diamètre et a une contenance de 60 cm cubes, la moitié étant remplie par ce sang de Saint-Janvier. Mais les témoins sont nombreux et les attestations solides qui ont vu cette poudre devenir liquide.
Brice Gruet, la poudre qui devient liquide. Alors, ça se passe à quelles occasions?
Alors, ça se passe au moins à deux occasions, qui sont voire trois, c'est-à-dire au mois de mai, qui fête le transport des reliques, le retour des reliques à Naples, en septembre, qui commémore son martyr, et en décembre, parce que justement, pour la commémoration de l'éruption de 1631, il y a une troisième cérémonie officielle. Mais après, ça peut arriver un peu, je dirais, n'importe quand. Et c'est ça qui est très irritant, parce que pour la littérature, je dirais, sceptique, hein, pour tous ceux qui veulent démontrer que c'est un faux, une forgerie, ce qui est très irritant, c'est que justement, ça ne marche pas à tous les coups. Et ça, c'est vraiment très, très ennuyeux. À partir de là, on peut constater de soi-même la liquéfaction, puisque c'est public. D'ailleurs, toute la presse italienne est là à chaque occasion. Hein, ils ont un petit box spécial. Et moi-même, je l'ai constaté pour avoir participé à ces cérémonies. C'est-à-dire que le père abbé hein, qui tient le reliquaire, donc c'est deux manches en argent avec en argent avec le centre en cristal de roche. Il y a ces deux ampoules en réalité qui sont dedans en pâte de verre, une qui contient des traces de sang et l'autre qui contient vraiment plutôt que de la poudre, ce serait une matière solide, sombre, vraiment comme du sang coagulé, donc qui ne bouge pas. Ça, on le voit au début de la cérémonie parce qu'il le remue régulièrement. Et puis le miracle, le prodige advient, ça redevient liquide et surtout ça change de couleur, ça devient rouge vif et même dans certains cas ça bouillonne. Donc, évidemment, c'est totalement invraisemblable, mais c'est factuel. C'est-à-dire que là, sauf si on n'y va pas et qu'on critique de loin, on ne peut pas faire autrement que de l'admettre.
Alors, si le sang devient liquide, cela signifie quoi? Ça veut dire que ça va bien?
C'est bon signe.
Ah, c'est
ça,
bon signe.
Et c'est comme ça depuis longtemps. Parce que c'est pareil, il y a toute une histoire de l'interprétation de l'état du sang. Et il y a même une archive spéciale qui consigne en fait cet état du sang à chaque occasion, avec un notaire qui vraiment décrit toutes les différentes étapes qui conduisent à la liquéfaction. Donc, d'une manière générale, quand ça se liquéfie, que ça bouillonne, c'est un très bon signe, un signe de vie, comme si le sang justement redevenait vivant. Et lorsque par contre il reste dur, solide, là c'est un mauvais présage. Voilà. Et les gens sont souvent désolés et inquiets, même les incroyants je dirais sont pas très à l'aise.
On n'est pas à l'aise, donc faut que ça se liquéfie. Alors si ça bouillonne, mais là la soirée s'annonce exceptionnelle, voilà, c'est la fête, c'est sûr. On peut évoquer vite fait du bicarbonate de calcium?
Alors, franchement, tout a été dit. Hein. Et là, c'est pareil, c'est Francesco Paolo De Ceglia qui a vraiment fait une histoire naturelle de ce secret de Saint-Janvier. C'est le nom de son livre, hein. Il Segreto di San Gennaro. Et on a même dit que c'était de la glace, du chocolat. Enfin, tout y est passé, en fait. Mais comme on peut pas briser l'ampoule, parce que ça, pour le coup, on peut laisser faire des analyses, mais briser l'ampoule, ce serait tout briser. On est obligé de l'analyser de dehors. Donc, non, je ne sais pas si le bicarbonate, ça peut marcher pour ça.
Voilà, mais est-ce que c'est un produit qui, avec une température qui s'élève, notamment par beaucoup de fidèles présents au même endroit, fait que ça change de consistance?
Oui, alors il y a des hypothèses physiques. Alors ce qui est vrai, et ça c'est ce que dit De Ceglia, c'est qu'en décembre, donc pendant la saison froide, ça se liquéfie moins souvent. Donc quand même, la température joue un rôle.
Bon, c'est ça que Florian Villain-Carapella, dans ce moment où nous évoquons la liquéfaction de ce sang de Saint-Janvier, là. C'est vraiment très impressionnant. Et on peut voir des images. Vous, vous y avez été. Vous l'avez vu, vous, non? Vous avez...
Oui, bien sûr. Et ça m'a rappelé un échange, justement, avec Francesco Paolo de Celia au mois de décembre. Je m'inquiétais de ne pas voir à distance le sens liquéfié. Il m'avait dit, mais ne t'inquiète pas, c'est climatique.
D'accord. Donc voilà. Il faut attendre avec le réchauffement climatique, il va se liquéfier de plus en plus souvent.
Sans doute.
Mais c'est ici un moment de ferveur populaire, c'est quelque chose qui concentre la dévotion autour de Saint-Janvier.
Oui, en fait, je pense que justement, c'est l'essentiel. Alors, dans le livre de Decelle, il y a qui est admirable, ça fait l'objet d'une note, en fait. Et l'auteur reconnaît que c'est peut-être la chose la plus importante, mais c'est un autre objet d'étude, d'une certaine manière. C'est la dimension sociale du culte, et le fait qu'il puisse réunir autant de personnes, en fait, à travers le monde, déjà de personnes présentes à Naples et autant de personnes à travers le monde. Et effectivement, c'est un point essentiel qui doit peut-être nous indiquer que la raison profonde de ces pratiques un peu surprenantes, elle est à chercher du côté peut-être du côté de la sociologie ou de l'anthropologie, c'est-à-dire en tout cas du côté d'une science qui essaierait d'expliquer au fond comment les hommes trouvent des moyens de faire lien entre eux. Mmh. Et il y a effectivement je pense à un terme ici qu'a créé un ami qui est parti récemment, un sociologue, Philippe Chagnal, et qui dit assez bien finalement tout ce qu'on peut croiser à Naples, c'est celui de sociophanie, quoi. Il y a quelque chose de sociophanique dans ces pratiques. Enfin, en tout cas, j'y crois profondément. C'est ça qu'elle dure, quoi.
En fait, l'empreinte sociale du phénomène, elle est incroyable, et l'empreinte spatiale aussi. Moi, c'est ce qui m'avait intéressé en tant que géographe, c'est-à-dire de voir comment quelques centimètres cubes d'une matière plus ou moins déterminée ont des effets territoriaux, en fait, et dans l'imaginaire des gens qui sont absolument stupéfiants. D'ailleurs, la députation, parce que c'est une organisation laïque qui gère à la fois les reliques et le Trésor, a déposé un dossier pour le classement au titre du patrimoine immatériel de l'UNESCO, parce que de fait, Saint-Janvier est devenu aussi le saint patron officiel, non seulement de Naples, mais de toute la Campanie, en fait. Pour dire à quel point c'est vraiment un personnage qui est essentiel, en fait. Donc, quoi qu'on pense du phénomène, de toute façon, ça a des conséquences absolument colossales, si vous voulez, pour la ville et pour les habitants.
Ah oui, parce que l'intérêt, bon, c'est toujours intéressant de savoir ce qu'il en est, mais c'est pas tellement ça qui est pertinent ici. C'est de voir les effets de ce culte que l'on y croit. Oui, c'est vraiment du sang qui se liquéfie, ou pas. D'ailleurs, c'est pas tellement ça qui est au cœur de nos préoccupations. Surtout que, à Naples, il y a tant et tant d'autres cultes. Et c'est ça qui est fascinant. Vous en avez évoqué quelques-uns, mais ce rapport aux morts, au crâne, au squelette, qu'est-ce que c'est?
Eh bien, alors c'est assez récent à vrai dire, hein. On pourrait penser que c'est adossé à une longue tradition pluriséculaire. Alors c'est le cas bien sûr, mais disons ce culte des restes humains et en particulier des crânes, on n'en a pas vraiment trace avant le début du XXe siècle. Et alors c'est un culte au fond qui est présenté comme un culte du purgatoire et qui est jusqu'à un certain point et certaines limites accueilli, investi par l'Église et qui consiste en fait pour des fidèles, donc essentiellement des femmes, c'est un culte essentiellement féminin, à venir prendre soin de crânes qui sont, alors pourquoi les crânes, qui sont au fond le symbole matériel de l'âme, en fait. Donc à venir prendre soin des âmes du purgatoire, des âmes purgantes, en appliquant sur ces crânes des gestes de tendresse, en les baisant, en les nettoyant. Donc là, effectivement, ça remonte peut-être anthropologiquement à des gestes qui pouvaient être pratiqués dans la double sépulture au XVIIe siècle, etc. Mais tout de même, en les époustant, et puis en leur faisant des offrandes et en priant, en fait, pour eux. Donc en tout cas en apparence, hein, disons, en ayant avec ses crânes et les âmes de l'au-delà, donc des sortes formes d'interaction, formes de complicité.
Il y a peut-être même une forme de contamination entre le culte de Saint-Janvier et ce culte-là, puisque, comme je disais tout à l'heure, sa tête était vraiment un élément central du culte depuis l'origine, ça c'est certain. Et il se trouve que, donc on a fabriqué à l'époque angevine, donc vers le 12e, 13e siècle, un reliquaire enfin, en forme de buste, grandeur nature, qui contient les os du crâne. Et ce que j'ai oublié de dire tout à l'heure, c'est que très vite, on considère que le miracle survient quand on rapproche la tête des ampoules de sang. En fait, c'est-à-dire que les ampoules seules ne se liquéfieraient pas. En revanche, quand on rapproche, donc quand on reconstitue finalement une certaine forme d'intégralité du corps, alors là, la présence du saint, en gros, arrive et le miracle survient. Donc ça veut dire quand même que cette question de la tête et donc des pouvoirs, en fait, de la puissance qui y est inscrite, ça c'est quelque chose qu'on retrouve quand même depuis assez longtemps.
Oui, et c'est tellement juste qu'en fait, on pense que la forme contemporaine du culte, eh bien, a pu apparaître justement après une exposition du trésor en fait de Saint-Génal au début du siècle. Et effectivement, il y a dans cette dévotion quelque chose qui évidemment ressemble de très près de toute façon au culte des saints. Il y a une imitation ici, un mimétisme du culte des saints qui est indéniable en fait.
Ouais. Donc, mais là où on peut parler, je pense aussi de fait social intégral, c'est que ce culte du saint n'est pas que populaire. Il traverse toutes les catégories de la société. Et autant 1631, on est quand même en pleine contre-réforme. Donc Saint-Janvier devient un peu le champion en fait du catholicisme par rapport à des protestants qui sont très hostiles. On le sait, au culte des saints, et en particulier, encore plus, je dirais, à des phénomènes comme la liquéfaction du sang. Donc, il y a quand même un mélange d'approches où la superstition apparaît. Parce que pour les protestants en particulier, c'est une pratique qui est horriblement superstitieuse.
Bah oui.
Et d'autant plus insupportable à cause de ça.
Et puis la portée symbolique est très forte. Hein. Reconstituer ce saint martyr qui a été décapité, donc qui était en deux morceaux, on réunit l'ensemble. Mais ce culte des ossements, ça se concrétise comment? C'est-à-dire, où sont les ossements déjà, ces crânes? Ils sont rangés où?
Alors, en fait, on en trouve dans beaucoup en fait de sous-sols des églises, puisque ce sont les sous-sols des églises ont été jusqu'à très tard, c'est en fait jusqu'au 19e siècle des lieux de sépulture dans une ville en fait qui comme Brice l'évoquait, qui ne comporte pas de place, en fait, n'a pas de place de toute façon pour accueillir les morts ailleurs que dans ces sous-sols qui étaient en fait des carrières de tuf par ailleurs. Donc la plupart des églises en fait ont des hypogées,
des cryptes, oui.
des cryptes, oui, exactement. Et donc dans ces sous-sols il y a des crânes, et puis ces crânes ont été progressivement transportés pour une grande partie d'entre eux, parce qu'il y en avait beaucoup trop, vers une grande carrière de tuf à l'extérieur des murs en fait de la ville, au bout du quartier de la Sanita, et qui est une carrière de tuf qui est devenue en fait au 19e siècle le cimetière des Fontanelles, et peut-être le lieu disons le plus emblématique au fond de ce culte du purgatoire. Donc ce sont des restes humains qui datent pour les plus anciens, en tout cas ceux qu'on peut identifier. On peut pas l'identifier parce que en fait ce sont des anonymes, mais on sait qu'ils remontent au moins au XVIIe siècle, c'est-à-dire à la peste.
Ah oui, un culte qui a de quoi fasciner.
Tous les lundis matins, dans les cryptes des églises Santa Maria delle Anime del Purgatorio, San Pietro ad Aram et Sant'Agostino alla Zecca, quittant les ventaires de la poissonnerie voisine, le charton où se vendent au poids les mégots, des femmes et des hommes viennent parler aux morts. Ce rite presque clandestin, la plupart des Napolitains eux-mêmes l'ignorent. L'Église ne le tolère qu'à contre-cœur. Mais il remonte trop loin. Ses racines sont trop profondes pour qu'une simple décision de l'autorité ecclésiastique suffise à y mettre terme. C'est aux démons, au sens antique du terme, que les vivants viennent présenter leurs suppliques. Ces ossements d'inconnus enterrés au cours des siècles, déterrés par hasard. On leur a trouvé un nom, Agnello, Lucia, Il Capitano, le capitaine. On leur construit un petit tabernacle vitré que l'on décore, que l'on fleurit avec des fleurs de plastique qui durent davantage.
Cinq colonnes à la une en 1967 et ça fait hyper peur. Brice Gruet, dans l'évocation ici des superstitions à Naples, évidemment dans votre ouvrage, vous êtes géographe, vous consacrez un chapitre entier d'ailleurs sur les lieux de cette sainteté, mais ici, on n'est pas dans la sainteté. C'est ça qui est très particulier. C'est plus un rapport à la mort et donc à la superstition. Qu'est-ce que les gens attendent en nettoyant les crânes ?
Ah, c'est quelque chose de, enfin, qui est considéré comme surnaturel, en fait. Hein. Et quand on parlait des lieux aussi des morts, il y a les catacombes quand même de Saint-Janvier, Saint-Gennaro, dans le nord de la ville, où il y a déjà toute une atmosphère qui est là. Donc, de fait, c'est quelque chose qui est en partie irrationnel, mais qui se fonde aussi quand même sur des pratiques chrétiennes presque primitif, dans le sens où on considère qu'en gardant ses morts près de soi, on continue d'avoir un lien qui permet aussi de mieux maîtriser sa vie, en fait. Hein, parce que eux sont déjà passés dans un au-delà qui les rend évidemment plus conscients de choses que nous, on ne connaît pas. Donc par rapport à ça, ça permet aussi d'apprivoiser la violence. On parle de la mort, certes, mais c'est aussi la violence naturelle des éléments, et comme je le disais tout à l'heure, la violence sociale aussi qui est présente. Donc il y a cette espèce d'atmosphère très particulière où, moi j'aurais tendance à dire qu'il peut arriver des miracles à Naples, c'est vrai. On fait des rencontres aussi sur le plan humain qui sont stupéfiantes. Il m'était arrivé d'aller voir un orfèvre, et cet orfèvre a commencé à me parler d'angélologie, voilà. Comme on aurait pu parler de la dernière baguette qu'on avait achetée. Et un poissonnier qui me raconte qu'il a été le bénéficiaire d'une guérison miraculeuse alors qu'il était considéré comme condamné. Et ça arrive très souvent. Donc il y a des récits aussi qui surviennent et qui s'inscrivent quand même dans la durée. Donc par rapport à ça, c'est vraiment mystérieux.
Voilà, donc on discute des anges, tranquille, en allant acheter des bijoux, on apprend des guérisons miraculeuses, et c'est tout à fait normal. Et puis, parmi ces lieux, il y a un cimetière particulier, celui des Fontanelles. C'est où, à Naples, où ça se trouve ?
Alors, c'est au bout d'un quartier devenu un quartier assez populaire à partir du 19e siècle, donc le quartier de la Sanita. Et c'est une immense, en fait, carrière de tuf devenue donc ossuaire et puis cimetière à partir de la fin du 19e siècle et qui a accueilli donc ce culte du purgatoire, donc un culte du purgatoire, hein, ce que je n'ai pas dit, mais qu'il faut dire tout de même, c'est un culte qui consiste tout de même, voilà, à prier pour les âmes du purgatoire, parce que vous demandiez si on pouvait parler vraiment de sainteté, mais ces âmes du purgatoire, depuis le 7e siècle, on les appelle saintes aussi, et dans les prières encore au 20e, on les appelle encore saintes, précisément parce que ces âmes du purgatoire, elles sont tout de même vouées à aller au paradis, et puis, elles ont une petite longueur d'avance, quoi, c'est qu'elles sont déjà dans l'au-delà, et donc, c'est pour cette raison qu'on peut aussi leur demander d'intercéder auprès de Dieu, ou souvent aussi de la Vierge. Oui, voilà, donc le cimetière des Fontanelles, c'est un lieu assez spectaculaire où on a effectivement, on peut croiser quasiment 20 000 crânes comme ça qui sont posés donc sur des fémurs et des tibias. Enfin, je suis pas spécialiste, mais ça ressemble à ça.
Oui, enfin des gros os, quoi.
De gros os, effectivement. Et qui a, disons, qui a accueilli vraiment le culte d'une façon particulièrement spectaculaire après la Seconde Guerre mondiale, en fait.
Est-ce qu'on reconnaît ces morts ? Parce que l'idée d'aller nettoyer un crâne, on se dit, bah tiens, c'est le crâne de grand-papy. Sauf que là, ils sont pas étiquetés.
Oui, alors là, c'est le point le plus important. En fait, c'est la question la plus importante. C'est ce qui fait peut-être que ce culte a été considéré par Michel Vauvel comme l'exception dans l'exception. Même si on trouve des pratiques de cet ordre ailleurs, à Naples, c'est devenu assez central au XXe siècle. C'est qu'effectivement, ce sont des crânes qui ont été qu'on pouvait adopter. Voilà.
Adopte ton
crâne. Parce que précisément, adopte ton crâne. Voilà, c'est ça. Précisément parce que c'est en fait ces crânes sont des crânes évidemment d'anonymes morts de mala morte. Depuis le XVIIe siècle et donc pour lesquels il s'agit de reconstruire ou de donner en fait une sorte d'identité. Donc on adopte effectivement un crâne ou une âme qui rejoint une famille, et on en a quelques traces, en fait, puisque justement au Fontanelles, par exemple, on voit des niches avec des crânes, qui ressemblent à de petites chapelles, en fait, avec des crânes, et qui portent le nom de la famille qui l'a accueilli ou qui a adopté l'âme. Voilà. Alors souvent, en fait, ces crânes sont adoptés parce qu'ils apparaissent. Enfin, ces âmes sont adoptées parce qu'elles apparaissent donc dans les rêves. Ça, c'est l'une des explications qu'on trouve. Et parce que, d'une certaine manière, en fait, leur commerce est plutôt heureux. Il apporte de bonnes choses, puisqu'on leur demande qu'il y ait des grâces et qu'on peut les obtenir. Eh bien, d'une certaine manière, ça vaut toujours la peine. Ça peut valoir la peine de les adopter.
Et puis la fontanelle, il faut le rappeler, c'est quand même cette petite membrane hein, sur les têtes des nouveau-nés, là où va se former l'os, avec ici quelque chose de particulièrement fort, puissant, en ce qui concerne la société, parce que l'idée d'aller voir des crânes de gens dont on ne sait pas qui c'est, mais que l'on adopte, ça permet aussi de saisir comment fonctionne cette ville de Naples. Enfin, c'est toujours très délicat à manier hein, la construction d'une société.
Oui, ça renvoie aussi à la question des mélanges culturel entre culture élitaire, culture populaire, parce que c'est vrai que par rapport à ce genre de pratique, on a tendance à considérer que ça concernerait que les classes les plus populaires. En fait, c'est plus complexe que ça, parce qu'il y a un va-et-vient entre ce que dit l'Église et ce qu'elle souhaite en fait des fidèles, avec cette question de l'intercession qui devient vraiment centrale à partir de la contre-réforme, et puis des pratiques qui vont quand même avoir tendance un peu à dévier. Enfin, ça inquiète souvent l'Église, c'est-à-dire que on laisse faire parce qu'on considère que c'est utile et que c'est même légitime, mais dans certains cas, ça peut devenir étrange. Et dans le cas de Saint-Janvier, il y a notamment les Palenti qui étaient ces femmes qui interpellaient le buste, qui commençaient même à l'insulter lorsque le miracle tardait à venir, et c'était quelque chose qui remonterait alors à l'origine même du culte, parce que ces parenti se considéraient comme les descendantes spirituelles, disons, de Sainte Eusebia, qui était cette femme, Sainte Eusebie, qui aurait récupéré avec des éponges le sang de Saint Janvier. Donc il y avait cette filiation purement symbolique, mais très importante pour les Napolitains, parce que ça légitimait le peuple comme étant le gardien en fait du culte, et l'Église accompagne le culte, elle ne l'encadre pas vraiment. Jusque récemment, où elle a voulu rationaliser ce culte en éliminant les parenti et en ne faisant simplement les consorelle, c'est-à-dire avec des prières plus tranquilles, où on n'insultait pas le saint, par exemple, en le traitant de facciagial, là, comme face jaune, ce qui choquait beaucoup certains ecclésiastiques.
Mais tu vas te liquéfier, oui, Saint-Janvier.
C'est ça.
Aujourd'hui, dans le cours de l'histoire sur France Culture, nous nous trouvons à Naples, entre croyance et superstition. Nous traversons la ville et nous nous arrêtons au cimetière des Fontanelles.
Le cimetière des Fontanelles, c'est un peu le décor d'un film d'épouvante hollywoodien. On y voit des montagnes de crânes, de fémurs, de tibias le long des murs. Et tous ces ossements ont été, je crois, rangés au début du XXe siècle. Et bon, c'est très, très impressionnant. Et au milieu de ces montagnes d'ossements, et il y a des squelettes qui sont habillés en prêtres, en avocats, en médecins, en militaires. Et le plus célèbre, c'est le capitaine. De la même manière, ce cimetière est très dur d'accès. Il est toujours fermé, pour les mêmes raisons que les autres lieux de culte, parce qu'il s'agit d'un culte hérétique et qui d'ailleurs, je crois, dans les années 50, avait pas mal dégénéré en rite de magie noire, rite païen. Enfin, donc l'Église s'est empressée de le fermer à ce moment-là.
Nous étions en 2009 sur France Culture et au cimetière des Fontanelles, avec ces lieux identifiés, ce cimetière que nous évoquons, la cathédrale Notre-Dame de l'Assomption, là où se trouvent les reliques de Saint-Janvier. Mais au moment de réfléchir à la présence dans la ville de ces superstitions, il y a les rues, on l'a dit, hein, partout. Brice Gruet, les rues sont aussi le lieu de la procession. Donc ici, on a associé à tous ces cultes des déplacements de personnes.
Oui, alors il y a tout un enchaînement symbolique en fait qui part des reliques et qui petit à petit vont concerner alors la ville entière, voire le royaume entier lorsque Naples était la tête d'un royaume, et puis même la chrétienté entière. Et ça a taraudé en fait les interprètes, parce qu'on se demandait jusqu'où allait la signification et l'importance de ces reliques. Mais actuellement, et ça remonte au début du 19e siècle, après l'occupation française, il y a la procession du mois de mai qui va de la cathédrale jusqu'à Santa Chiara, qui est une église très importante pour l'histoire de la ville. Et donc ça s'inscrit réellement dans les rues de la ville. Et ça, c'est un phénomène qui est très ancien, puisque, comme je disais tout à l'heure, c'est en 1389 que vraiment le sang apparaît, et les processions se structurent très clairement à ce moment-là. Et ça reste une constante, même si les trajets vont changer, en fait.
Avec, dans cette histoire, au moment de traverser les rues de Naples, de voir tout ce que vous nous évoquez là, hein, que ce soit sous forme de sculpture, que ce soit sous forme d'écrit aussi, parce que il peut y avoir tant de traces, d'un seul coup, notre esprit est d'un seul coup saisi en voyant, mais que fait-il ici? Maradona. Pourquoi Maradona est là dans cette histoire napolitaine? En tout cas, bon, pourquoi il est là, on va le dire en deux mots, mais surtout, pourquoi l'associer à l'idée de culte?
Mais oui, alors moi je pensais pas m'y intéresser pour tout vous dire et j'ai été frappé, alors là encore aussi grâce à Francesco Paolo de Celia, donc oui, le lien continue à se faire aussi par la recherche et l'intelligence de ces histoires, mais c'est en 2020 que j'ai été frappé par au moment de sa mort, donc le fait que Naples vivait vraiment confiné et que toute la ville sorte comme ça, alors qu'elle était plutôt docile hein, jusque-là, ça étonnait beaucoup de monde, sorte pour se réunir et rendre hommage à Maradona. Et là, effectivement, je me suis dit que Deschel a raison, il faut travailler sur Maradona, il faut aller voir ce qui s'y passe. Et en fait, j'ai découvert que, mais on ne m'avait pas attendu, qu'on travaille sur Maradona à Naples de façon très sérieuse. Depuis le début, il y a des chercheurs qui des sociologues, des anthropologues, des philosophes qui prennent ça très au sérieux. Donc c'est une chose un peu étonnante. En fait, Maradona est arrivé au milieu des années 80 à Naples comme joueur assez prometteur, en fait, mais il n'était pas encore tout à fait le Maradona qu'on connaîtra ensuite. Donc, il n'était pas champion du monde. Il n'avait pas encore gagné de coupe en Italie, puisque voilà, il a fait faire sa carrière à Naples. Il venait de Barcelone. Et Naples, à ce moment-là, effectivement, alors sortait de quand même d'un traumatisme. C'est le tremblement de terre de 80. Et puis, par ailleurs, donc sur le plan footballistique, était assez mal en point puisqu'il risquait de passer en Ligue 2. Enfin, je sais pas, je connais pas l'équivalent. Enfin, en série B, je sais pas comment on appelle ça exactement. Donc Maradona arrive à ce moment-là et de façon tout à fait inattendue, en fait, le stade qui s'appelait San Paolo, qui s'appelle aujourd'hui justement Diego Armando Maradona, le stade en fait accueille plus de monde qu'il ne peut accueillir, à vrai dire. Il y a plus de 70 000 personnes qui sont là pour accueillir Maradona et qui lui-même reste sans voix. Et c'est là que l'histoire commence, en fait, à vrai dire. Et pourquoi je dis que c'est étonnant? Parce que précisément, il n'avait pas encore fait ses preuves, d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'il a été accueilli dans cette ville qui, finalement, l'a accompagné dans tous ses exploits ensuite, mais qui l'a je crois, d'une certaine manière, l'a adopté, et qui l'a adopté en retour, quoi.
Brice Gruet, dans votre ouvrage Le Saint, le sang et le volcan, on aurait pu rajouter Le Saint, le sang, le volcan et le ballon.
Oui, alors c'est vrai que moi, je m'intéresse pas énormément au football, j'avoue, à titre personnel. Il n'empêche que c'est évidemment un fait culturel majeur. On m'avait raconté, par exemple, qu'une fois où l'équipe de Naples avait gagné, donc la Squadra Azzurra, ils avaient littéralement, dans les quartiers espagnols, donc qui sont des quartiers avec des rues très étroites, très rectilignes, ils avaient peint en bleu les rues, intégralement, de joie. Donc, de fait, c'est quelque chose d'inouï. Et les rues à Naples, en particulier dans la vieille ville, c'est un théâtre permanent. C'est-à-dire que c'est d'une densité en termes d'interaction sociale, d'événements, qui est absolument inouï. Donc le football, ça s'inscrit aussi là-dedans. D'ailleurs, avec les drapeaux des équipes, etc., évidemment, on le voit constamment. Donc même quand on n'est pas amateur de football, on ne peut pas l'ignorer, ça c'est certain.
Oui, oui. Mais puis bon, alors justement, et c'est ce qui est étonnant, c'est, pour revenir à Maradona, c'est que l'équipe est maintenant associée à Maradona. Il y a le stade Maradona. On continue de chanter justement au stade des chants qu'on adressait aux champions argentins. Et ce qui est assez curieux, c'est que, puisque vous me demandiez pourquoi on peut aller jusqu'à parler de culte de Maradona, eh bien, il est vrai qu'il a justement pris certains attributs de Saint-Janvier. Donc on le voit parfois à certains endroits représenté avec la crosse, avec la mitre de Saint-Janvier. C'est tout à fait étonnant. Et au point que voilà, un anthropologue napolitain, Marino Gnola, a créé une sorte de mot valise pour parler de cette nouvelle figure hybride, San Gennarmando, nouveau saint. Et alors, ce qui est assez étonnant, en fait, qui n'est pas tout à fait un saint, parce que là encore, je crois que les Napolitains jouent beaucoup avec leurs croyances et s'amusent aussi du fait que l'on peut croire qu'ils y croient. Ce qui compte dans cette affaire, je crois encore une fois, c'est le fait que Maradona était l'occasion d'une communion, exactement comme je crois que les choses peuvent se passer dans les processions pour Saint-Janvier ou même dans les sous-sols des églises autour des âmes du purgatoire. Il est devenu en fait le symbole. Au sens fort, enfin au sens littéral, quoi, de la ville.
Brice Gruet, c'est vraiment cela qui relie en fait tout ce que nous évoquons, le culte de Saint-Janvier, que ce soit les processions, avec ce qui se passe à Naples et la figure du footballeur Maradona. C'est aussi un élément qui fait société.
Oui, en fait, on n'est jamais assez entouré à Naples, parce qu'il y a des tas de choses dont il faut se protéger, et donc cette question d'intercession, elle est multiple. On ne l'a pas dit, mais Saint-Janvier n'est pas le seul patron de Naples. Il y en a des tas d'autres, en fait, qui l'accompagnent. D'ailleurs, dans la chapelle du Trésor, il y a des tas d'autres reliquaires en argent massif, grandeur nature, de tous ces saints. Donc, on adore être en contact avec le plus d'entités possibles qui peuvent nous aider. Ça, c'est quelque chose qu'on voit. Et puis surtout, comme le disait Florian, il y a quand même un côté très impertinent dans la culture napolitaine aussi. C'est-à-dire qu'en gros, comme c'est le peuple qui quand même choisit, au fond, et on y insiste beaucoup, il y a un côté très drôlatique, vraiment irrévérencieux, même subversif, pour être tout à fait clair là-dessus. Et c'est là-dessus que les élites négocient, c'est-à-dire qu'on se méfie quand même un peu de ce qui peut en sortir. Il y a un côté révolutionnaire là-dedans qui est quand même présent.
Même si les élites participent à ce culte, hein, c'est pas un culte populaire au sens où les élites regarderaient ça avec mépris.
Non, dans les processions anciennes, alors ce qui est curieux, c'est qu'on a une iconographie assez pauvre finalement de ces processions, mais par rapport au tableau que j'ai pu commenter dans mon ouvrage, on voit quand même que toutes les classes et surtout tous les ordres de la société sont présents. Depuis le vice-roi à l'époque de la royauté jusque vraiment au petit peuple. Et ça, c'est un fait essentiel parce que la députation, donc qui représente la société civile, elle est extrêmement sourcilleuse là-dessus. Elle est vraiment la gardienne de ce culte et elle assure le lien avec la population.
Oui, puisque vous disiez à l'instant, Florian Villain-Carapella, l'idée que les Napolitains, ils en jouent, et ça les amuse, qu'on y croit, ça permet aussi de comprendre ces cultes anciens, qu'il s'agisse du purgatoire, qu'il s'agisse de Saint-Janvier, quand on voit ce qui se passe avec Maradona, parce qu'ils savent très bien que c'est pas un saint, c'est pas vraiment un saint, un grand footballeur. Et voilà, de le mettre à un tel niveau, ça permet aussi de saisir comment ces cultes si anciens pouvaient eux aussi être perçus.
Oui, c'est une manipulation assez virtueuse en fait au fond des croyances et qui doit nous conduire. Alors je suis désolé pour le thème de la semaine, mais conduire peut-être à relativiser la superstitiosité justement des Napolitains, qui ne le sont peut-être pas tant que ça au fond, puisqu'ils ils semblent assez souvent mettre en scène leurs croyances, mais pour obtenir de façon, on pourrait dire pragmatique, façon performative, efficace, quoi, autre chose. Et c'est notamment cette communion dont les Napolitains, dont les Napolitains ont besoin.
Mise en scène de la croyance, mise en scène de la superstition, mais quand même sublime histoire de culte, qu'il s'agisse de Saint-Janvier ou de Maradona, Napoli sublimé. C'est votre ouvrage, Florian Villain-Carapella, c'est publié aux éditions du Bord de l'Eau. Et Brice Gruet, merci beaucoup à vous de nous avoir présenté donc le saint, le sang et le volcan, se protéger des désastres à Naples. Ça, c'est aux éditions du CNRS. Merci beaucoup à tous les deux.
Merci.
Merci à vous.
La série du cours de l'histoire consacrée à la superstition, l'histoire touche du bois, est à retrouver sur franceculture.fr et l'appli Radio France.
Nous ne savons pas très bien exactement ce qui est certain. Nous ne savons pas très bien non plus ce qu'il faut faire, mais nous savons extrêmement bien ce qu'il ne faut pas faire. Il ne faut pas jouer avec ce feu dont nous ne connaissons pas très bien les lois.
Le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Cassandre Puel, à la technique Grégory Wallon. Émission préparée par Jeanne Delecroix, Raphaël Laloum, Jeanne Copet, Solène Roy et Maïwenn Guizhou. Le cours de l'histoire est une émission à retrouver, à podcaster, ainsi que toutes nos archives sur le site franceculture.fr et sur l'appli Radio France.